7h30, vendredi 16 décembre 2011, vous écoutez La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous, un plaisir bien entendu de vous retrouver en ce vendredi soir jusqu'à 18h30 pour discuter principalement de bande dessinée et on fera également quelques ouvertures autour de la sphère du manga ce soir. Côté BD, de quels albums vous parle-t-on de manière peut-être un peu plus détaillée? Eh bien, une belle parution qui nous est arrivée récemment des éditions Pow Pow, c'est le livre Mile End de Michel Hellman, un livre qui rassemble les meilleures planches d'un blog qu'il a réalisé en 2004 et 2011 autour de sa vie dans ce mythique quartier de Montréal. Alors, on partira à la découverte de tout ça. Également, on va parler bande dessinée jeunesse depuis déjà quelques temps. Ben, l'équipe des 400 coups réédite tranquillement les albums de la série Ariane et Nicolas de Paul Roux. Alors, on va en parler avec lui autour notamment de cet automne de deux rééditions, donc Le Phylactère fou et Le passé dépassé. Également, on va parler manga puisque Pascal Roux sera de passage en fin d'émission. Et à l'approche des fêtes, ben, on se prépare tranquillement, on se fait peut-être notre version de ciné-cadeau pour ceux d'entre vous qui apprécient ce type de référence. Pourquoi on parle de films de temps des fêtes? Ben, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, l'univers de Miyazaki, je pense que je vais bien m'y replonger agréablement pendant les vacances. Et on reviendra pas nécessairement en détail sur sa filmographie, mais on va essayer plutôt de répondre pourquoi on aime ça, Miyazaki? Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie autant le travail de cet animateur japonais? Également, tout à l'heure, on va parler avec Sam Murdoch, commentaire BD de cette semaine. Et dans l'actualité, mauvaise nouvelle, triste nouvelle, en fait, le dessinateur italien Carlo Peroni, connu sous le pseudonyme de Perogat, qui avait participé, entre autres, à la création du célèbre personnage de Calimero, vous vous rappelez ce poussin noir là, coiffé d'un morceau de coquille. Il est décédé un peu plus tôt cette semaine, à l'âge de 82 ans. Alors, il avait commencé à travailler dans l'univers de la bande du dessin animé dans les années 60. En 63, en fait, d'ailleurs, le premier Calimero autour des pères de ce personnage, les frères Nino et Tony Pago. Alors, ben voilà, un personnage quand même assez célèbre pour une génération de gens, à tout le moins, avec qui on a eu le plaisir de grandir. Alors, cela étant dit, maintenant, la sélection musicale pour cette semaine sera une formation d'Halifax qui donne dans le Gypsy Jazz. J'avais envie d'explorer un peu d'autres sonorités. Et avec les températures un peu incertaines, je me suis dit, on prendra pas de chance, on y va avec quelque chose d'assez joyeux. Alors, on va écouter quelques extraits d'un album de 2011 de la formation Gypsophilia, qui s'appelle Constellations. On va aller également faire un petit tour vers les opus de 2009 de cette formation. Alors, ce sera donc notre sélection musicale pour cette semaine. Et on en écoute d'ailleurs dès maintenant un petit extrait, Montréal. Thank you. petit extrait de l'univers Gypsy Jazz de Gypsophilia qui nous accompagnera donc au fil de l'émission de cette semaine. Et dans le plaisir d'être en compagnie de Sam Murdoch. Bonjour.
Salut Raymond.
Ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Plus que mes écouteurs.
Et Sam en fait plusieurs sujets pour cette semaine et on commence avec Passion 2011.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, ben, c'est drôle parce que donc au retour 2012, on va avoir quand même une émission, je ne sais pas si l'annoncer déjà.
Non, mais on peut le faire. On fait une émission rétrospective.
2011.
2011 avec coup de cœur, coup de gueule, réflexion. Bref, ce sera le 13 janvier prochain.
Chose qui est quand même sage parce que souvent, tous les retours d'année sont faits en... Qu'est-ce que je disais dernièrement avec Exclaim? Sur une musique qui est... Tu sais, il doit faire le montage à la mi-novembre. C'est imprimé la dernière semaine de novembre. Donc, il manque quand même un mois et demi de 2011 pour les parutions.
Effectivement, dans le fond, ici, on va être certain au moins d'avoir l'année au complet pour le retour. Et tu fais un lien, Sam, avec la fin de l'année parce qu'il y a un côté rétrospectif à Passion 2011?
Oui. Non, tu sais pas, ce qui arrive, c'est que en 2011, c'est comme été une grosse année pour moi, grosse année de lecture, grosse année. Puis là, je voulais faire, donc au départ, si je parle de comic book américain, parce que j'ai lu beaucoup de trucs en anglais. Je pense que 2011, c'est mon espèce d'année de saga. Là. Je me suis retombé sur toutes mes sagas de jeunesse que j'avais jamais lues ou que j'avais pas lues depuis longtemps, que j'ai recommencé à lire. J'ai lu, des grosses pages, des grosses pages de BD. J'ai lu en entier Akira au complet, que j'ai découvert quand j'avais 10 ans, qui était magnifique. Truc américain, Vertigo. Puis tout ce que je raconte là, c'est tout des conseils. C'est des conseils. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est quand je me tape sa cuisse en écoutant un film, parce que là, il y a beaucoup d'action au cinéma, mais quand tu tapes sa cuisse en écoutant la bande dessinée, en lisant une bande dessinée, t'es là, waouh. Puis souvent, ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose que tu peux raconter dans une bande dessinée que tu peux pas raconter dans un film. Puis quand tu lis le bon truc, c'est là que ça touche. Là. Je dors pas beaucoup en plus, hein, puis ça l'excite. Donc, j'ai entier Why the Last Man, que je trouve très bon, Walking Dead, donc on a parlé tantôt de télésérie Walking Dead que j'ai eu au complet. J'étais en France, il y a exactement un an, j'étais en France, puis là, j'étais en train de voler un peu la chronique de quelqu'un d'autre en parlant de manga, sauf que j'étais en France il y a un an, puis en France, il y a des pawn shops, mais eux vendent de la bande dessinée, beaucoup. Donc pour 1 euro, tu peux trouver presque toutes les bandes dessinées, les premiers exemplaires, ou les 10 premiers de toutes les grandes séries manga, parce que la France, c'est comme les deuxièmes plus grands acheteurs de manga après le Japon.
Alors, on peut profiter de prix quand même assez avantageux. Là.
Pour un euro, j'ai acheté les premiers numéros des Naruto, des Dragon Ball, puis le 13, la série 13 aussi, fait que c'est pour 1 euro, c'est quand même pas mal, ça remplit tes bagages. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai lu en entier cette année Dragon Ball, donc puis si j'avais lu ça 10 ans plus tôt, je pense que je ferais du karaté présentement. J'ai lu en entier 30 Days of Night, donc de Ben Temple Smith, très très bon, Torgal, que j'ai lu en entier. Puis non, moi, j'ai deux trucs que je revendiquais, bien, c'est un, c'est prendre le temps dans la vie, de prendre le temps, puis deux, c'est je revendique l'art du bain. Je sais pas si t'es déjà venu chez nous, oui. T'as sûrement visité la maison, moi j'ai seulement un bain, hein, fait que je prends seulement des bains, pas de douche, donc c'est le moment de lecture. Mais c'est pas seulement au lit ou dans l'autobus, moi je prends 1 heure par jour pour lire. Puis ces temps-ci, ce que je lis, c'est donc ce que je veux parler, c'est Monsieur Tezuka.
Osamu.
Tezuka, qui est un peu le dieu du comic book japonais. Donc, depuis...
Ici, en fait, je veux juste préciser, on parle de comic book, on parle de... C'est un manga, ça?
On parle de manga, c'est comic book, parce que moi, je lis le truc qui est en anglais, de la bande dessinée japonaise, soit des années 70, donc, qui est mort quand même en 1989 à 60 ans, donc ça fait quelques années qu'il a quitté. Puis, dernièrement, mon essai de coup de cœur, c'est une maison d'édition de New York qui s'appelle Vertical, qui publie pas beaucoup de choses, un peu comme la bande dessinée européenne. Souvent, ce que je dis, c'est que l'éditeur de bande dessinée... américaine publie chaque semaine. Il y a une époque, là, en 95, là, chez Marvel, où est-ce qu'il publiait 200 titres par mois. Donc, c'est comme se tirer dans le pied. Là. Tu te fais compétition toi-même avec toutes tes propres séries. Il y a comme trop de choses qui sortent. Mm-hmm. Puis la bande dessinée européenne, tantôt on parlait de Torgal, les trucs comme ça. T'sais, tu fais 48 pages aux 2 ans. Donc, tu as l'impression que tu le déposes chez l'éditeur, qu'il a le temps de le lire, qu'il a le temps de l'apprécier, qu'il comprend ce qui sort. T'sais, à 200 titres, c'est pas possible. Donc, Vertical de New York font un peu ça. Il publie quelques mangas, des romans un peu traduits donc japonais en anglais, et puis des livres de sudoku, mm-hmm. et 2 livres de cuisine. Mais là, ils ont pris une espèce d'entreprise de refaire des Tezuka, donc en anglais.
De les rééditer, de les traduire, de les rééditer.
De les traduire. Puis c'est ça qui est drôle, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'ils font qui datent des années 70, puis à peu près 30 ans avant d'être traduits. Donc, c'est quand même étrange. Puis les trucs dernièrement qu'ils ont fait, ben il y a une série qui s'appelle Blackjack qui parle de médecine. Donc, Tezuka qui lui était médecin. Puis j'aime les bonnes histoires dans la vie. Puis souvent, tu sais, Tezuka n'a pas été battu. C'est pas un orphelin. C'est pas, il y a une bonne famille qui l'ont bien encadré, qui était des bons parents, qui l'encourageaient à lire de la bande dessinée, à dessiner le manga. Donc, lui a fait un truc qui s'appelait, bon, Blackjack qui parlait de médecine, qui est des courtes histoires, qui est sympathique, qui est chez Vertical. Puis donc, dans l'espace de 2 mois, je pense que j'ai tout acheté ce qu'ils ont publié. Je suis comme vécu dans cette espèce d'univers-là de manga des années 70. Puis il y a aussi des trucs qui me fascinent, c'est comment c'est intemporel. Les deux livres, j'en parle tantôt, c'est des histoires qui sont quand même assez horribles. Mais Ode to Kirito, Ayako, MW, et puis le Book of Human Insect. Ça, c'est mes espèces de sélection pour le temps des fêtes, là. Parce que quand tu lis n'importe quel article sur Wikipédia, sur Internet, il parle de Tezuka, il parle de lui comme l'espèce de Walt Disney japonais. Parce qu'il faisait... Tezuka qui a inventé Astro Boy. Mm-hmm. Mais donc, il a fait Astro Boy juste une espèce de période de sa vie, mais lui, il a toujours revendiqué l'art de faire de la bande dessinée pour enfants et pour adultes. Puis moi, si je le compare pour intéresser les gens, c'est un peu l'espèce de David Lynch de la bande dessinée. Hein. Parce qu'il a fait des trucs, justement, il voulait tout le temps aborder le sujet de religion, quelque chose de sexualité. Puis il y a des bandes dessinées qui sont réellement pas faites pour des enfants. Donc, Book of Men Sec qui parle de femme fatale, MW qui parle de religion, mais de façon assez torturée, puis quelque chose d'intemporel. Il n'y a aucune référence à des ordinateurs.
Il n'y a rien qui permet de dire clairement, regardez, ça a été écrit dans les années 70.
C'est incompréhensible que ça ait pris 30 ans avant d'être traduit du japonais à l'anglais.
Oui, parce qu'il y a quand même une bonne demande chez les Américains là, pour le manga aussi.
Donc, 100%, je n'ai pas exactement pourquoi ça a pris autant de temps, comment ils se creusent leur truc, mais c'est des briques, c'est 600 pages de bande dessinée, c'est pas des séries à Dragon Ball, qui 42 tombes. C'est comme lire un bon film le dimanche. Ça, c'est mon espèce de conseil de fin d'année. Pour l'année prochaine, on va revenir encore sur des trucs particuliers. Mais donc, chez Vertical, ils ont un tout petit Facebook. C'est le gars de chez Vertical qui fait lui-même ses petits commentaires. Sur Internet, le site, c'est facile à trouver. Tu vois tout ce qu'ils font. Puis dernièrement, à l'automne, The Book of Human Insect en couverture rigide, qui est très magnifique. Et MW, ça, c'est mes deux conseils de la semaine.
Alors, bon, on note Osamu Tezuka chez les éditions Vertical. Donc, pour ceux qui ont envie d'explorer le manga, oui, à travers les versions anglaises qui en sont faites, ben, une chouette maison d'édition aussi à découvrir. C'est magnifique. C'est indéniable.
Alors, ben, ça change une vie.
Sam Murdoch, merci beaucoup.
Merci vraiment.
Et nous, on se dit à l'année prochaine, justement.
Oui.
Voilà. Alors, ben, on repart en musique et on écoute un petit moment de Gypsophilia. Thank you. prendre un petit extrait de la pièce Sabadao, Gypsophilia. Vous écoutez toujours La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89 en compagnie de Raymond Poirier. Et on plonge maintenant dans l'univers de la bande dessinée jeunesse des rééditions donc qui nous sont offertes cet automne chez 400 coups, la série Ariane et Nicolas. Donc, tranquillement, tome par tome, on nous repropose cette série écrite par Paul Roux. Deux tomes qui ont été réédités cet automne, donc Le Phylactère fou et Le passé dépassé. Et pour nous en parler, on a le plaisir d'être en compagnie de l'auteur. Paul Roux, bonjour.
Bonjour.
Alors j'imagine, en fait, c'est toujours un plaisir de voir ces BD proposés une nouvelle fois après les sorties initiales.
Oui, surtout que là, ils ont vraiment la forme qu'on aurait voulu qu'ils aient dès le début. Mais quand ils sont sortis, l'industrie n'était pas assez développée. Les couvertures dures, c'était compliqué, ça coûtait très cher. J'avais eu un album qui avait été fait avec couvertures dures et souples. Et il coûtait 8 dollars plus cher quand on l'achetait avec la couverture dure. Donc c'était comme un peu inabordable. Et là, c'est devenu la norme. Alors c'est comme un rêve réalisé.
Et en même temps, ça permet un peu de bonifier aussi les épisodes, dans la mesure où il y a toujours un dossier, justement, qui clôt le livre en lien avec les thèmes abordés dans la bande dessinée elle-même.
Oui, c'est ça. Je voulais ajouter un chose de plus. Et l'idée de dossier était là depuis au début aussi. C'était pas réalisable à l'époque, mais c'était quand même ajouter un plus, justement, pour la réédition, avec une nouvelle couverture, une nouvelle présentation. Enfin, que l'emballage et qu'il y ait un peu plus de viande autour de l'os, que ce soit encore plus loin. Et puis, justement, ça déborde un peu de la BD. Les dossiers sont pas de la BD, mais touchent la BD ou parlent de l'histoire ou parlent de quelque chose dans l'histoire. Donc, ça permet vraiment d'ouvrir d'autres portes sur autre chose.
Et en même temps, il faut dire, à mon sens, en fait, Ariane et Nicolas se prêtent bien à ce type d'exploration-là parce que chaque épisode, que ce soit des histoires courtes ou des histoires plus longues comme Le passé dépassé, ben, on touche à des thèmes précis. En fait, il y a toujours un répertoire thématique auquel vous vous contraignez, si je puis dire, dans chaque histoire, dans le fond.
Oui, ben, c'est que chaque album est né de l'envie de parler de quelque chose. Disons que bon, le phylactère fou, c'est un peu comme le fait que les gens ne communiquent pas entre eux, chacun travaille dans son coin, toute la machine va mal, mais personne ne regarde ce que fait l'autre et puis personne ne se connecte pour que ça fonctionne mieux. Donc finalement, le personnage, sa bulle ne fonctionne pas, il ne dit pas ce qu'il pense. Et dans Le passé dépassé, ben, c'est l'incompréhension entre les peuples, les Anglais, les Français, les Français, les Anglais, les Tchétchènes, les Russes, et puis finalement, ça finit plus parce qu'on ne se parle pas. Mmh. Donc il y a toujours des thèmes comme ça qui sont là en filigrane en arrière et qui sont les moteurs pour faire une aventure où il y a beaucoup d'humour, de fantaisie, où ils peuvent aller justement dans des endroits impossibles où nous on pourrait pas aller de notre vivant. Donc c'est un mélange de tout ça, entre la fantaisie et des choses connectées vraiment à la vraie vie ou à des choses dont j'ai envie de parler, du monde qui m'entoure.
Oui, parce qu'en même temps, ça devient un peu un outil autant pour le public jeunesse qui va lire l'album, autant pour les plus vieux, les parents et le reste, dans le fond, dans la mesure où il y a matière à discussion. Dans le fond, la discussion ne se termine pas avec la fin de l'épisode.
Non, et c'était un peu ça. Moi, disant que ce qui m'a donné envie de faire de la BD quand j'étais petit, c'était Astérix, je le lisais, et quand j'ai relu plus tard, j'ai compris des gags que je ne comprenais pas petit, mais je comprenais l'histoire pareil. Et quelque part, sans prétention aucune, là, j'ai envie de faire la même chose, de parler à plusieurs groupes d'âge, à plusieurs personnes en même temps. Donc, dans Le Phylactère fou, il y a des gags, il y a une histoire, mais en même temps, un adulte qui va regarder le livre va se dire, ouais, on dirait certaines organisations, on dirait le gouvernement, on dirait plein de choses qui sont à un autre niveau, on voit qu'ils fonctionnent mal. Alors, oui, c'est écrit un peu pour tout le monde. Moi, quand je l'écris, je ne l'écris pas, sauf peut-être le premier album qui était plus jeune, Le Miroir Magique, je ne l'écris pas pour un groupe d'âge, je l'écris comme il vient et puis je m'adresse à tout le monde.
Et qu'est-ce qui vous amène justement sur un thème plutôt qu'un autre? Est-ce qu'on se dit, cette idée-là, oui, elle se BDise bien comparativement à un autre élément, ou c'est simplement d'essayer de parler de quelque chose qui vous touche, qui vous intéresse, et après ça, d'essayer de trouver une manière de le décliner au niveau visuel, parce qu'en même temps, il y a des mondes qui sont créés là-dedans.
Exactement, c'est ça. La difficulté parce que là, je suis rendu au 6e, je travaille sur le 7e et le 8e, la difficulté, c'est de les envoyer dans des lieux où on ne peut pas aller. Donc là, le spectre se rétrécit, mais plus ça va, plus je trouve des idées pour des choses que je n'avais même pas imaginées. Donc parfois, le thème, c'est oui, j'ai envie de parler de ce sujet. Parfois, le thème commence sur un sujet et puis dévie sur un autre. Parfois, plusieurs sujets se regroupent. C'est une maturation qui fait que l'histoire ne s'écrit pas dans un jet. L'histoire s'écrit au fur et à mesure, et parfois même l'album est déjà en cours de production, qu'il y a peut-être 20 pages d'écrites, et puis il y en a 10 vagues, et 2 qui sont pas sûres, et puis finalement, les choses se mettent en place. Donc il y a un travail qui se termine vraiment quand la dernière image est finie. Il y a, oui, un fil conducteur, mais en même temps, il y a la liberté peut-être de dévier, d'amener des choses nouvelles. Donc il n'y a jamais une façon particulière de faire un album. Chacune est une aventure.
Et vous y allez donc, de ce que je comprends, de manière quand même assez instinctive.
Oui, ben, tout est préparé parce qu'une BD, il faut d'abord raconter une histoire, donc tout est quand même construit. J'ai quelque chose à dire, je sais que j'ai un thème dont je veux parler ou deux thèmes, mais je ne sais pas toujours le point final où ça me mène à 100%. J'ai une vague idée et parfois l'idée elle change complètement. Donc c'est ce côté aventure qui permet justement tout en travaillant. Et parfois le scénario est écrit au complet à l'avance, mais plus ça va, plus il y a comme une espèce de liberté où j'ai besoin d'avoir les balises pas toutes tracées pour au fur et à mesure trouver des choses encore mieux.
Et le passé des passés, c'était un peu le premier album histoire complète, entre guillemets, là, versus avant, c'était habituellement des courts récits, Ariane et Nicolas. Pourquoi avoir choisi éventuellement de changer un peu de format pour ce tome-là?
Ben ça s'est fait un peu par les hasards de la vie, parce que le premier Ariane et Nicolas était un tout petit album noir de 24 pages, noir et blanc, qui s'appelait Voyage au pays des mots, chez notre éditeur, et ça avait été une publication très modeste, très à Montréal, 500 copies, bon, un petit tirage. Et petit à petit, ça s'est transformé en album en couleur, donc j'ai gardé un peu le même principe pour les premiers albums, mais à un moment donné, les deux récits dans le même livre ne me laissaient pas assez le temps de développer des choses, et avec le thème du passé dépassé, je voulais les envoyer à trois époques différentes, je voulais parler de plein de choses. C'était un peu comme aller aux racines aussi de la civilisation occidentale, en allant chez les Grecs, en allant à la guerre de 100 ans, etc. Et je me disais, j'ai pas assez de pages avec 15-16 pages, donc il me fallait un grand récit, et à partir de là, ben, tous sont devenus des grands récits, ça me permet de développer beaucoup plus les choses. Les premiers, parfois, les thèmes sont traités de façon plus rapide, plus succincte, plus punchée. Là, j'ai envie de m'étendre plus pour aller plus dans les détails du récit. Donc, c'est un choix qui s'est fait naturellement au fil du temps.
Exactement, on s'est dit à un moment donné, ben, regardez, je crée des univers, je veux les exploiter au maximum, dans le fond.
Oui, puis je rencontre souvent des jeunes dans les bibliothèques, ouais, et puis je dis combien je ferai de livres dans ma vie avec cette série-là et je viens où? J'ai dit je ne sais pas parce que c'est une merveilleuse aventure. On commence avec un personnage, j'ai d'autres séries à part celle-là, je l'ai commencée, je ne savais pas où j'allais, je pensais qu'il n'y aurait qu'un album en noir et blanc, c'est devenu un album couleur, c'est devenu une série, c'est republié, il y a des dossiers, je suis en train de penser au 7e, au 8e, je disais pour le 9e, le 10e, j'aurais jamais imaginé, donc c'est une merveilleuse aventure, je ne sais pas où elle va me mener, mais pour l'instant, disons qu'elle ne m'apporte que du bonheur.
Et parallèlement, on parlait des thématiques tout à l'heure. Celle qu'on n'a pas mentionnée, c'est le second récit dans Phylactère Fou, Émission Toxique, où là, vous parlez, vous réfléchissez un peu, on pourrait dire, sur l'influence de la télévision et sur les côtés néfastes de l'excès, peut-être, de l'abus de ce médium-là.
Oui, ben c'est amusant parce que le récit, le Phylactère Fou, initialement, a été fait en 97. Donc, je me suis déjà posé la question sur la télé qui nous abrutissait dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on nous matraque de publicité ou on nous matraque de toutes sortes de choses, des fois, qui sont, surtout maintenant, avec la multiplication des canaux et puis tout ce qui se passe, bon, on repasse les émissions, les rediffuse en boucle. Donc, c'était un peu, mais c'était aussi l'influence du roman de George Orwell aussi, le Big Brother qui veut tous nous mettre dans le même moule. Donc, l'idée de nous contrôler, de nous ficher, on a des numéros partout, on est fiché partout. Donc c'était un peu la conjoncture de tout ça qui me donnait envie de parler de la liberté de ne pas adhérer, de ne pas se laisser embarquer dans le système, de ne pas se laisser laver le cerveau par la télé ou autre chose. Et c'était une manière humoristique d'en parler.
Et en fait, c'est quand on parle aussi de récits qui demeurent actuels, mais en fait, vous auriez pu écrire celle-là cette année, ça aurait pas changé, là.
Oui, c'est ça qui me fascine. Et puis le premier album, Le Miroir Magique, je l'avais fait en 92. Et j'ai reçu cette année, dans le palmarès Communication GES, j'ai été un des 5 albums les plus aimés, j'étais en 3e place, les 5 albums les plus aimés et les plus lus des jeunes au Québec. Donc je dis un récit qui a presque 20 ans, parle encore aujourd'hui, il est encore actuel, ça m'a vraiment surpris, j'aurais jamais imaginé, ça m'a donné comme de l'énergie pour dire il faut continuer à raconter ça parce que ça peut rester, ça peut perdurer, ça peut toucher aussi d'autres jeunes qui seront conscients de ça plus tard. Et puis le Phylactère Fou, c'est la même chose, ils le relisent aujourd'hui puis ils se disent tiens, je vois ça à la télé et non, je veux pas être comme ça et non, je veux pas me laisser avoir et non, je veux pas penser comme tout le monde, je veux avoir ma liberté de penser. Merveilleux, parce que je n'essaye pas de passer des messages, j'essaye de faire des fois réfléchir à travers mes récits sans côté moralisateur, mais parce que j'ai envie qu'on se pose des questions et qu'on regarde la vie de différentes façons.
Et ça, c'est à mon sens, c'est peut-être un peu justement le choix des thèmes et les axes que vous proposez. Ben, vous parlez de Voyage au pays des mots, le premier, où essentiellement, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas lu, les jeunes se retrouvent à l'intérieur d'un monde où les mots sont personnifiés ou prennent vie essentiellement à travers des petites bibites bizarres. Et donc, c'est peut-être un peu la richesse de ces thèmes-là, le côté intemporel, peut-être, des thèmes que vous choisissez de proposer à votre lectorat qui fait un peu la durée de cette série-là.
Oui, j'imagine. Et puis, c'était pas un choix conscient. C'est, j'avais envie de parler de ça. Comme le dernier paru, L'Étoile Mystérieuse, ils vont dans les toiles, les tableaux de maîtres célèbres que j'ai choisis, et puis pas les plus évidents non plus, comme Jérôme Bosch, tout le monde ne le connaît pas autant aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Mais ils vont dans l'esprit des créateurs et ils sont dans des univers fantastiques. Ça donne envie de découvrir les œuvres des créateurs, point final. Et puis, c'est toujours des thèmes comme ça qui finissent par me séduire parce que je veux quelque part, justement, que ce soit pas. Je veux que ce soit assez universel et assez large, et en même temps, ça se relie à la vie de tout le monde. Donc, aller découvrir l'art ou s'intéresser aux choses que font les autres, ben, c'est bon partout, dans n'importe quelle culture, à n'importe quelle époque. Et pareil pour Voyage au pays des mots, s'exprimer avec des mots, jouer avec des mots, quelle que soit la langue, quelle que soit l'époque, ou même la planète, je dirais, si on jouait à d'autres vies sur d'autres planètes, ben, c'est toujours là, c'est toujours valable, c'est toujours. Alors oui, c'est intemporel, mais c'était pas un choix conscient au départ, c'est venu comme ça, j'avais envie de m'exprimer à travers ça.
Et vous avez mentionné donc deux autres titres qui s'en viennent, je pense que c'est En fait drôle d'histoire et Panique à Panama pour 2012-2013.
Oui, ben normalement il devrait y avoir la réédition des Tours de Babel cet hiver, donc le cinquième, parce que là pour l'instant les quatre premiers et le sixième sont parus, donc le cinquième, les Tours de Babel étaient encore avec couverture souple, donc devrait paraître cet hiver en version dure avec un dossier. Et là, j'ai fait un dossier un peu fou où les deux enfants vont au Cameroun parce que le personnage vient du Cameroun et ils font voyage fictif là-bas et ils parlent du pays à travers des photos parce que je suis allé à quelques reprises et on découvre une autre pays, une autre culture à travers leurs yeux, leur voyage à eux. Et ensuite, Drôle d'histoire serait le septième et Panique à Panama que je suis en train de dessiner en ce moment. Je suis rendu à la page 16, va se passer dans la forêt, mais avec des esprits particuliers, le fantôme d'un conquistador, une histoire, une légende indienne de là-bas, la pollution, plein de choses mélangées. Et oui, je m'amuse beaucoup et j'ai déjà des idées pour les prochains, mais bon, on va concentrer sur ce qu'il faut réaliser en ce moment. On a trois prévus pour la 2012-2013.
Alors, on continue de vous suivre et de vous lire. Paul Roux, merci beaucoup.
Ben merci à vous, bonne lecture à tous et joyeux Noël. Puis dites-vous que pour fêter Noël, la meilleure chose, c'est de lire une BD.
Voilà, je n'arrête plus de le dire. Merci.
Merci, au revoir.
Bon, voilà, je vous rappelle la série Ariane et Nicolas qui est disponible chez les 400 coups. Alors, et notamment les deux rééditions de cet automne, donc le Phylactère fou et le Passé dépassé. Je ne sais pas si vous avez vu passer en librairie, mais donc une autre version des textes de Caroline Allard, Chronique d'une mère indigne, qui est arrivée cet automne en bande dessinée, scénario de Sophie de Villenoisy, dessin d'Olivier Messana, c'est disponible chez Jungle. Et une autre, j'allais dire d'entrée de jeu, je le redirais peut-être dans ce petit commentaire rapide, une autre version de cet univers-là qu'on a lu sur Internet, version blog, qu'on a vu décliner version livre, évidemment, suite logique, qu'on a vu également au Québec décliner sous forme de capsule web, et maintenant qui voit une autre itération. Alors, si vous aimez les textes de Caroline Allard, si vous avez apprécié l'une ou l'autre des itérations donc de ces chroniques d'une mère indigne, mais probablement que dans cette bande dessinée, vous allez trouver votre compte. Par contre, inversement, si vous avez l'impression qu'on a fait peut-être un peu le tour de cet univers-là, vous en êtes un peu fatigué pour une raison ou pour une autre, eh bien, c'est certain, j'imagine, d'instinct, naturellement, vous n'irez pas non plus vers cet univers, et avec raison. Est-ce que la BD est efficace? Est-ce qu'on la proposerait d'abord versus le livre, par exemple? Ben évidemment, non. C'est certain que le matériel écrit original est plus intéressant. Par contre, est-ce que ça apporte quelque chose, donc cette relecture format bande dessinée de l'univers de Caroline Allard? Eh bien, un peu à l'image donc des capsules web, ça donne un autre regard, une autre manière de scénariser, de présenter un peu cet univers-là. Alors, c'est pas raté du tout. En ce sens, un dessin qui est très, permettez-moi l'anglicisme, est très sketchy, les personnages aux grands yeux, quelques traits. Donc, dans le style, ça fonctionne, ça va un peu avec, peut-être un côté, Ça cadre bien avec l'univers de cette série-là. Par contre, bon, c'est certain que c'est pas non plus un dessin qui est extrêmement riche, extrêmement détaillé. On aime ou on n'aime pas. Mais donc, si on a envie de profiter de cette interprétation-là des textes de Caroline Allard, oui, ça peut être intéressant. Par contre, est-ce que c'était nécessaire de faire cette adaptation-là? Évidemment, non, dans la mesure où il y a quand même déjà pas mal de matériel de disponible. Je voulais donc profiter de l'émission pour vous faire une petite mention rapide. Donc, Chronique d'une mère indigne d'Olivia Messana et Sophie de Villenoisy d'après Caroline Allard chez Jungle, qui est disponible présentement. Alors, on prend une courte pause au retour. Michel Hellman qui nous parle de Mile End et encore à venir Pascal Leroux pour nous parler un peu d'Hayao Miyazaki.
Des rêves extraordinaires à réaliser ce vendredi. Le gros lot du Lotomax est évalué à 30 millions de dollars.
Lotomax.
Le 31 décembre. Les Disques Nomades et le Grand Théâtre de Québec vous invitent à faire partie de la famille. Une soirée festive au son des artistes de la scène émergente. Isabeau et les chercheurs d'or, Thierry Coyette, Bouhangu et plusieurs invités. Le service de garde est ouvert sur place. Le 31 décembre, 20h, à la salle Octave Crémazy du Grand Théâtre de Québec. Billets sur Billettech, collaboration Studio Léman et CKRL. Pour sa prochaine activité, le Ciné-Club Spirafilm vous propose le plaisir du grand écran en famille. Une séance spéciale pour les plus jeunes, le 18 décembre à 14h à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoges. Le Club des Crocodiles de Christian Dutheux, un film plein d'aventures à voir dès 8 ans. La séance sera précédée d'un court-métrage pour les enfants et animée d'une activité de découverte et de questionnement autour du cinéma. Invitée, Pamela Bisson, cinéaste et animatrice jeunesse. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle au Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, la boîte à pâte, le bal du lézard et CKRL. Remember how I'm going to live forever. Lundi, 17h30, le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis, en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Avec vous pour la vie en BD ici à CKRL. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez profiter des podcasts des précédentes émissions et de quelques informations sur l'univers de la bande dessinée à Québec, vous pouvez visiter notre blog lavieenbd.wordpress.com et également on a une page Facebook. Alors on vous incite à cliquer j'aime. C'est la vie en BD CKRL 89.1. Vous pouvez également trouver le lien sur le blog. Donc c'est pas très compliqué, rien de secret. On vous incite bien entendu à poursuivre avec nous dans d'autres médiums les explorations autour de cet univers. Et on a parlé il y a quelques semaines de ça, des récentes sorties chez Pow Pow pour cet automne. Trois albums, donc on en parle tranquillement l'un après l'autre. Et cette semaine, on a le plaisir de jeter un regard sur l'album de Michel Hellman, Mile End. Donc des récits quotidiens qui sont inspirés de ce quartier, qui se passe dans ce quartier légendaire de Montréal. L'auteur est avec nous au bout du fil. Michel Hellman, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a charmé dans le Mile End? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y consacrer d'abord un blog et ensuite un livre?
Ça fait quand même presque 10 ans que j'habite dans le quartier. J'habite dans un appartement aussi que je trouve à beaucoup de personnalité. Donc, petit à petit, j'ai commencé mon blog et je me suis rendu compte que le quartier prenait vraiment une place importante dans le blog. Et quand j'ai décidé d'en faire un livre, Luc m'a suggéré de vraiment... Luc Bosset de... L'éditeur des éditions Papa m'a suggéré de l'appeler Mile End et de centrer ça autour du quartier.
Et dès le départ, en fait, la couleur est donnée. On vous voit en train de discuter en avant de Wilensky. Et en fait, il s'agit d'être passé une fois ou deux dans le quartier pour saisir un peu les images et comprendre peut-être un peu le regard que vous portez sur le quartier. Un regard quand même, un côté assez romantique, entre guillemets, de cette expérience-là dans un quartier aussi coloré, là.
Oui, ben en fait, donc c'est vraiment des tranches de vie. C'est tout inspiré de ma vie dans le quartier, mais il ne faut pas habiter dans le quartier pour comprendre le livre. Je voulais quand même que ce soit accessible à tout le monde. C'est pas centré sur le quartier. C'est vrai que c'est un quartier avec quand même une certaine histoire.
C'est ça, je donne une couleur au livre, mais c'est pas le cœur du livre.
C'est ça, exactement.
Et justement, en fait, le blog, initialement, donc vous l'avez tenu à partir de 2004, donc il y a quand même eu aussi beaucoup de trucs que vous avez écrit. Vous avez fait un peu la sélection, justement, des textes autour du quartier. Vous avez ajouté aussi des nouvelles planches. Comment s'est fait un peu la préparation, la sélection?
En fait, c'était beaucoup plus long que ça a l'air, parce que je voulais qu'il y ait un thème aussi. Je voulais pas juste que ce soit des histoires qui se suivent sans ordre précis. Je voulais qu'on comprenne, même si on dirait qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les histoires, que c'est lié à ma vie, au changement que j'ai eu entre la période où j'ai emménagé dans l'appartement, c'était avec mon coloc, et puis j'étais étudiant, et la fin où il y a ma copine qui vient, et puis on a un petit bébé ensemble. Donc c'est l'évolution de la vie avec l'évolution du quartier, finalement. Mais tout fait avec humour aussi, puis un point de vue un peu ludique, je veux dire, sur ce que je vois autour de moi.
Et vraiment, les sujets sont assez vastes. Enfin, on passe des opérations d'éneigement à l'attachement qu'on peut avoir envers un ordinateur et plusieurs autres sujets entre les deux. Qu'est-ce qui fait justement qu'une anecdote du quotidien va être une bonne anecdote BD?
Je sais pas d'où me viennent les idées. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose d'assez général. J'ai envie de faire rire les gens, donc j'ai envie de parler de sujets qui nous touchent tous, plus ou moins. Donc, justement, parler d'un ordinateur, par exemple, ou parler d'un déneigement, ça aussi, il y a un côté peut-être dépaysant, parce que j'ai de la famille qui habite en France. Donc, eux, ils suivaient le blog, et puis ils voulaient un peu que j'explique un peu comment ça se passe à Montréal. Donc, peut-être, c'est peut-être en pensant à eux aussi que je fais ces histoires-là.
Parce qu'il y a quand même un bon défi aussi, dans la mesure où c'est quelques planches seulement, il faut quand même les mettre en scène, que ce soit rythmé, que ce soit punché. Ça peut paraître facile quand on le lit comme ça, mais dans l'exécution, il y a quand même pas mal de travail, à mon sens, là-dedans.
Il y a certaines histoires, oui, qui me prennent du temps, mais j'aime le faire et j'ai envie de faire rire les gens. Donc si ça fonctionne, tant mieux. Et puis surtout, mettre beaucoup de détails aussi dans les planches, ça, je pense que les gens, ils apprécient. Et c'est vraiment un côté que j'ai envie de donner à mon livre.
Et vous faites vous-même des clins d'œil, d'ailleurs, dans certaines des planches, notamment sur la question du détail, où à un moment donné, vous dites, je travaillerai plus vite si j'en mettrais un peu moins, justement.
Oui, c'est ça. Après, des références. Il y en a plusieurs aussi. J'ai envie que les gens puissent lire le livre une première fois et prendre un peu l'humour puis l'histoire. Mais après, quand ils s'y replongent, ils voient d'autres choses cachées. Il y a des clins d'œil à l'histoire de l'art. Jamais des plus trop prétentieux, mais les gens, ils peuvent le voir un petit peu, ou des clins d'œil aussi d'une histoire à l'autre, des petites choses cachées comme ça.
Oui, des références et en même temps aussi d'une histoire à l'autre. On passe parfois d'un dessin très détaillé, un style X, à un autre dessin qui s'oriente un peu plus dans d'autres types de teintes. Enfin, on sent que le blog servait peut-être un peu aussi, vous me corrigerez, là, de laboratoire côté dessin pour vous. Là.
Oui, ça c'est sûr, et c'est un peu l'avantage du blog. Je pense qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui le diront. J'aurais pu refaire tous les dessins. J'ai choisi d'en refaire juste quelques-uns parce que de temps en temps, je trouvais que le côté un peu spontané qui sortait vraiment du sketchbook où je faisais le dessin, ça donnait de la personnalité à l'histoire et aussi au livre dans la succession des images.
Oui, en fait, d'avoir un côté varié, parce qu'en même temps, il y a le côté journal dans ça aussi qui est présent, même si on est sur une longue période, là.
Oui, exactement, c'est ça. Comme on tient un journal, de temps en temps, on se sent plus motivé, on veut écrire, vraiment exprimer ce qu'on ressent, mais de temps en temps, on va aller vite aussi, on va aller juste au sujet rapidement.
Et vous avez choisi, vous en parlez un peu dans la BD, mais initialement, en fait, la question, je me la pose encore quand même un peu, vous avez choisi de vous représenter, vous, sous les traits d'un ours, en fait, sous un visage animalier, vous dites, ben, regardez, c'est parce que je veux que les gens puissent se reconnaître à travers mon personnage, est-ce que c'est effectivement le cas? Et en même temps, pourquoi avoir choisi d'être le seul animal dans votre entourage?
Je voulais pas que ça ressemble trop à Louis Trondheim, qui représente tous les gens en animaux, mais d'un autre côté, je trouvais que ça fonctionnait bien avec mon personnage et ma personnalité. Parce qu'au début, j'essayais de me dessiner plus ou moins comme je me voyais, avec les cheveux et tout ça, mais ça fonctionnait pas. Si je simplifie le trait, parce que c'est vraiment un ours, mais en fait, ça pourrait être n'importe quel animal, c'est vraiment deux yeux avec des petites oreilles. C'est un personnage neutre. Il est ni blanc, ni noir, il est ni asiatique, ni français de France ou québécois, donc les gens, ils peuvent se mettre à la place de ce personnage-là. Mmh. Et les autres, ben, c'est plus qu'une question de caricature. Je voulais, il y a par exemple mon coloc, donc je le représente, je suis pas obligé de le dessiner exactement comme il est, mais je le mets avec des lunettes parce que, en fait, c'est plus une question de mémoire.
Et pour ceux qui vous suivent aussi, Michel Hellman, en fait, j'ai l'impression que à peu près deux ans, vous avez affaire quand même deux BD de style de facture assez différent, donc Mile End et celui que vous aviez publié chez Colosse en 2010, Iceberg.
Oui, oui.
Ou qui est plus oserais-je dire, méditatif.
Oui, c'est un style vraiment très différent. Iceberg, je l'ai fait en papier découpé. Ça parle d'un sujet un peu dur, un sujet politique et environnemental par rapport au Grand Nord. Mais ça prouve aussi que, enfin, je peux passer d'un style à l'autre. Je fais finalement ce qui me plaît, puis j'ai pas vraiment envie qu'on me catégorise dans un style.
Enfin, faut nous donner le temps, il faut vous donner le temps aussi, parce que j'imagine en fait que la plume continue d'expérimenter, de chercher. C'est pas après deux livres qu'on se cantonne, qu'on a envie de se cantonner même.
Oui, exactement, mais même après, même si j'ai vraiment un style que je préfère, j'ai envie de continuer à explorer. J'ai un autre livre en préparation justement comme Iceberg en papier découpé, je vais faire ça avec Loïc Cravant. Mm-hmm. Et je prépare aussi un livre plus comme Myland pour Luc aussi, pour les éditions Powerpow, ce serait pour l'année prochaine.
Alors, on
continue à aller dans les deux styles différents.
Et avec quand même des échéanciers assez rapprochés aussi, donc ça force, ça donne des échéances nettes pour la création.
Oui, ça c'est clair.
Et en terminant, Michel Hellman, donc le blog lui-même, donc 2004-2011, qui versus le livre, est-ce que en préparant ça, ça vous a donné aussi l'occasion de porter un regard sur votre évolution en tant que BDiste, là, sur quand même 7 ans de notes, de planches, de dessins?
Ah oui, c'est clair. Et je trouve justement que le blog offre aux dessinateurs vraiment une belle occasion de s'améliorer. Déjà, on a les commentaires, donc ça peut être énervant de temps en temps, mais ça nous pousse aussi à essayer de s'améliorer. Mais aussi, on peut regarder les archives et on voit l'évolution du trait. C'est pas la même chose que, j'imagine, les gens avant faisaient des fanzines, mais là, vraiment, le blog, on se motive d'essayer de faire une note plusieurs fois par semaine.
Et on en découvre le meilleur dans ce livre, du moins une partie du meilleur, donc autour de cette thématique, on l'a dit, du quartier Mile End, qui est le décor de ce quotidien que nous présente Michel Hellman. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bonne fin de journée.
Merci, vous aussi.
Au revoir. Alors voilà, donc c'était Michel Hellman, et je rappelle Mile End, qui est disponible chez Pow Pow. Et on repart avec un dernier petit extrait de Gypsophilia. Au retour, on jase manga avec Pascal Roux.
Bye.
un petit extrait, Gypsophilia, Jewish Dance Party, formation, je vous rappelle, de Halifax. On mettra un peu plus de liens, en fait, vers les sites de ce groupe, là, si vous voulez explorer un peu plus avant, via le blog de l'émission, donc lavieenbd.wordpress.com. Et sur ce, ben, on a le plaisir d'être rejoint pour une dernière fois cette année par Pascal Roux. Bonjour.
Salut Raymond.
Ça va?
Ça va très bien, toi?
Mais ça va très bien également. Mais on se prépare tranquillement pour le temps des fêtes. Et il faut dire, en fait, bon, il y a des films, il y a de ces incontournables qui viennent de notre enfance. Il y a ceux aussi qu'on ajoute au fil des années. Et je parle pour moi, j'ai l'impression que je parle pour toi aussi. Je parle sûrement pour d'autres, mais des films d'Hayao Miyazaki, comme Spirited Away, par exemple, qui vont peut-être faire figure d'incontournables à un moment ou un autre de la saison des fêtes.
Tout à fait. Moi, je prévois de me faire, disons, de revoir les Miyazaki que j'ai en DVD à la maison et de me les revoir tous pendant la période de Noël.
Et il y a quelque chose, cet auteur-là, qui fait qu'on l'aime, qu'on apprécie particulièrement ses mécaniques, et parce qu'il y a quand même des mécaniques aussi à travers ça. Et j'annonçais un peu le sujet en introduction, Pascal. Tu vas te questionner, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on aime Miyazaki, qu'on apprécie Miyazaki?
C'est la question que je me posais. Qu'est-ce qui fait que Miyazaki, non seulement on aime ça, on aime le voir, on aime revoir, on aime voir des extraits, on aime... Moi, personnellement, j'aime voir même les special features que je fais pas forcément avec d'autres films ou d'autres animés, mais les DVD que j'ai regardé tous les features avec passion, comme les animés eux-mêmes. Alors, pour aujourd'hui, je me suis demandé effectivement pourquoi j'aime autant Miyazaki. C'est quand même... il en a quand même pas fait tant que ça. Je veux dire, Miyazaki, on le connaît, mais ce qu'on connaît de lui, c'est surtout, bon, le premier, le château de Cagliostro, Nausicaa, le château dans le ciel, mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, Princesse Mononoke, le voyage de Chihiro, le château ambulant et le dernier, Ponyo sur la falaise.
C'est les incontournables.
C'est les incontournables, en fait, et si on compte bien, il en a fait 10, où il a vraiment réalisé, scénarisé et animé. Et je me disais déjà, pour commencer, c'est quoi mon préféré? Je pense qu'il y aurait le voyage de Chihiro et le château ambulant. Toi, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est tes préférés?
Le voyage de Chihiro, je dirais, c'est effectivement incontournable. Pour l'autre, ça varie selon les périodes. Moi, j'aime bien Princesse Mononoke, c'était mon premier Miyazaki. Donc,
C'est le premier que j'ai vu aussi, mais ce n'est pas celui que j'ai préféré. Et justement, je m'étais demandé pourquoi. Je crois que dans mon cas, si j'ai pas aimé Princesse Mononoke autant, c'est que j'arrivais pas à m'attacher autant au personnage. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui fait que Miyazaki en aime autant ça, c'est qu'il prend un personnage, il le développe et on s'y attache. On s'y attache tellement que on le regarde évoluer à la fois dans les choses importantes de l'animé, quand il se passe vraiment des choses importantes, mais aussi les petits détails. Je sais pas, c'est Chihiro, par exemple, quand elle regarde quand elle arrive, comment dire, dans le sous-sol, et que là, elle rencontre le vieux pour lui demander du travail, et que là, il y a les espèces de petites boules de suie qui transportent les... ça a comme pas vraiment d'importance pour le récit. Mais on y passe quelques minutes, et c'est un vrai plaisir, parce que on est avec le personnage.
Et dans bien des cas, j'aurais presque envie de dire, Pascal, que c'est les films de Miyazaki, c'est souvent une suite de moments un peu fantaisistes, un peu surréalistes, mais touchants et humains en même temps. Mais c'est vraiment, c'est construit sur des moments qui, à force de cumuler, deviennent un récit. Mais pour des films comme Chihiro, c'est encore plus vrai parce que c'est quand même assez prolongé. Et c'est beaucoup de scénettes du quotidien pour Totoro aussi, versus des films un peu plus courts, un petit peu plus directs comme Ponyo, par exemple.
C'est vrai. C'est comme si, en fait... en regardant, je suis en train de penser à une affaire en même temps, c'est que je discutais avec un ami qui aime beaucoup le manga, les comic books, les animés, et il me disait cet été que ce qu'il avait découvert par les mangas, par rapport à son écriture, c'est quelqu'un qui écrit de la fiction, c'est qu'il avait découvert les histoires non linéaires. Le plaisir de plonger dans des histoires non linéaires, qu'on trouve avec Miyazaki, qu'on trouve avec le réalisateur qui a fait, voyons, Paprika et ce genre de choses. C'est comme, effectivement, il y a une petite ligne directrice. On sait que on va aller du point A au point B, mais pas en ligne droite. Il va se passer plein de choses, plein d'affaires qui n'ont pas forcément de rapport, d'autres qui ont du rapport. C'est comme une espèce de superflu indispensable pour s'approprier l'histoire. C'est effectivement ce côté très japonais, non linéaire, qui fait que c'est complètement éclaté. Et en même temps, ça a quelque chose de vraiment... comment dire ? C'est à la fois éclaté et c'est en même temps prenant. Je ne sais pas, par exemple, si on prend Chihiro, qui est, semble-t-il, notre préféré à tous les deux. On a Chihiro, la petite fille, qui, avec ses parents en voiture, bon, elle déménage. C'est ce qu'on apprend. Donc, elle arrive dans un endroit qu'elle n'aime pas. Le père prend un raccourci, comme beaucoup de pères qui savent où ils vont, mais qui prennent des raccourcis pour aller à un endroit. Et là, il découvre l'espèce de parc ville fantôme. Et l'histoire commence. Et là, il se passe tellement d'affaires. Oui, il y a l'histoire avec Aoru. Il y a l'histoire avec, la vieille sorcière. Il y a plein d'histoires. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que Miyazaki, c'est quelqu'un qui est né en 1941. Donc, il a 70 ans. C'est comme s'il avait encore 10 ans dans sa tête. Comme s'il créait ses animés avec une fraîcheur d'enfant.
En fait, c'est comme si il amenait un univers et qu'il voulait le faire vivre. En fait, le but du film, c'était de faire vivre une espèce de monde avec plein de créatures bizarres, fruit d'une imagination quand même assez libre, laissé avec une grande liberté, mais vraiment de faire vivre, de faire fonctionner son univers, de pas juste le créer ce monde-là pour un petit récit, mais de montrer comment il marche au quotidien, peut-être, à un certain degré. Là.
Oui, je dirais même que dans les Miyazaki, l'histoire n'est pas au service de l'idée. C'est que il y a une idée, et après ça, il part complètement. J'ai lu cette semaine un petit bouquin qui s'appelle « Dans le studio Ghibli, travailler en s'amusant » de Toshio Suzuki, aux éditions Kana. Toshio Suzuki, c'est un producteur des studios Ghibli. Quelqu'un donc qui travaille avec Miyazaki depuis extrêmement longtemps. Et dans ce petit livre, vraiment très bien fait, il rapporte des tas d'anecdotes sur le travail avec Miyazaki, sur travailler avec les autres producteurs, avec les autres animateurs, etc. Et quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'il disait que Miyazaki, parfois, il commençait à dessiner une histoire, il commence à dessiner son film, il ne connaît pas encore la fin.
Oui, effectivement.
Il se laisse totalement aller et disait que c'est... Que Miyazaki, c'est comme un grand enfant avec de l'émerveillement dans les yeux et que sa particularité, c'est que c'est un pro, là. Ça fait vraiment des décennies qu'il fait ça. Mais c'est comme s'il oubliait ce qu'il avait fait avant pour se laisser la fraîcheur du débutant. Et c'est ce qui arrive quand on voit ces animés.
Et en même temps, dans ces personnages, ce que j'aime bien, en fait, c'est pas le cas dans nécessairement tous ces films, mais il y a toujours une dynamique où il y a pas tant de noir et de blanc que ça. En fait, le noir tend des fois un peu vers le gris, et finalement, les méchants sont pas nécessairement si méchants. Et les gentils, ben, ont une part de compréhension, ou des fois, il y a des zones de gris aussi de leur côté. Donc, en fait, outre l'héros ou l'héroïne qui, lui, est pur et il représente une certaine innocence, mais l'univers qui l'entoure est gris. Donc, il y a un petit côté réaliste, entre guillemets, malgré l'univers un peu surréel qu'il propose.
Oui, effectivement, les personnages, on ne sait pas s'ils sont vraiment complètement méchants ou complètement gentils. Il y a beaucoup d'humour même chez les méchants, il y a des côtés noirs chez les gentils. C'est dur à expliquer hein, pourquoi on aime ça. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai tellement de mal à le dire. Je ne sais pas. Effectivement, il y a la fraîcheur, il y a l'innocence, l'amusement. On sent qu'il y a beaucoup d'amusement derrière la création de tous ces films-là, la magie. La magie de l'imaginaire, la magie de l'enfance. Moi, je suis allée voir Ponyo quand c'est sorti au cinéma et j'étais dans une salle remplie d'enfants de 3 à 8 ans. Puis là, j'ai adoré ce film-là. La musique est splendide. C'est l'imaginaire quand la mère se déchaîne avec la mère de Ponyo et qui est là. Toutes les couleurs, c'est absolument splendide. Mais ce qui était le plus amusant, c'était les réactions des enfants. Il criait dans la salle à un moment donné parce que la mère recouvre tout, puis Ponyo et le petit garçon trouvent la voiture de la mère du petit garçon vide. Puis là, il y a un enfant qui dit « Ah ! Sa mère, elle est morte ! Mais non, tu coûtes pas, en fait, elle est pas dedans, tu vois bien, ils disent pas qu'elle est morte, mais non, ah, puis ça criait, c'était absolument splendide, et j'ai l'impression que Miyazaki, quand il crée ses dessins animés, il se met dans la peau des enfants. Il s'émerveille lui-même de ce qu'il fait. Je sais pas.
Non, probablement, parce qu'en fait, c'est effectivement, l'univers, en fait, pour les jeunes, ben, en fait, ils embarquent à 100% sans hésiter là-dedans. Et pour nous, on dirait qu'on n'a pas le choix. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que j'aime bien ça. C'est, on n'a pas le choix de se reporter sur le film avec nos yeux d'enfant, mais pas avec la nostalgie de l'enfance, pas nécessairement avec le même regard qu'on va regarder Astérix chez les Bretons, qui est très bon aussi, mais qui me fait me rappeler mon enfance.
C'est
parce que j'ai découvert, j'étais adulte.
Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose. On ne le regarde pas avec nostalgie. Parce que Miyazaki ne le fait pas avec nostalgie. Il le fait comme s'il était toujours un enfant. Et ça fait probablement la différence. C'est que on regarde un Miyazaki, ça nous fait pas mal au cœur. On n'est pas malheureux de plus être des enfants. On est au contraire heureux d'être à nouveau comme des enfants. Je crois que c'est un petit peu la différence que ça fait. En tout cas, c'est magique. Il me semble que... Je pense que je vais re-regarder d'abord Le Voyage de Chihiro cet hiver, et je vais finir par Ponyo en regardant les autres. En tout cas, c'est difficile, hein, quand on aime vraiment quelque chose, de mettre le doigt dessus. Je dirais que même, j'ai lu l'ouvrage, un autre ouvrage vraiment fantastique, j'en reparlerai certainement en détail, qui s'appelle Hayao Miyazaki, cartographie d'un univers, qui est fait par R. Colson et G. Régnier aux éditions Les Moutons Électriques. C'est un ouvrage absolument splendide qui a été richement illustré sur l'univers de Miyazaki. Et là-dedans, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur la façon de travailler, mais ça ne m'a pas indiqué plus ce que je pouvais dire sur ce que j'aimais dedans. Parce que Miyazaki a cette espèce de magie qui touche le spectateur au plus profond de lui. Et effectivement, on est là, on est... Waouh, comme des enfants. Moi, j'ai prêté mes DVD aux enfants qui habitent dans mon immeuble, et il y en a une trentaine. Puis tous, c'était des fois, je les entends passer devant ma porte, puis Totoro, Totoro. Ils sont tous en train de triper là-dessus, mais autant les parents que nous-mêmes. Effectivement, c'est comme une espèce de façon de nous ramener à l'enfance, mais sans nostalgie, sans pincement au cœur, sans tout ça.
C'est simplement le plaisir de regarder, de plonger dans un univers... Pendant une heure, deux heures et demie.
Oui,
et...
le plaisir absolu. Plaisir absolu de plonger dans les nus univers de Miyazaki.
Et si vous ne croyez pas, ben, allez voir Totoro, allez voir Chihiro, si ce n'est déjà fait, ou les autres.
Les revoir. Écoutez les bandes originales. La musique est vraiment exceptionnelle, en tout cas. Tout est bon dans Miyazaki. On dit tout est bon dans le cochon, mais non. Tout est bon dans Miyazaki. Écoutez-le, regardez-le, faites quelque chose, mais laissez-vous aller.
Oh ben Pascal Roux, merci beaucoup. Et on se dit à l'année prochaine.
Oui.
Voilà. Alors, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année. Alors, on aura le plaisir notamment de parler avec les dessinateurs de la série Stat. Et Michel Giguère vous propose aussi quelques autres bandes dessinées et suggestions BD réconfortantes pour le temps des fêtes. Alors, soyez là. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Dans quelques instants, l'équipe de 100% Dynamite.